Au programme de ce grand forum, et en ce vendredi 20 septembre, retour sur la grosse actualité de la semaine avec la mort de Ben Ali, le président tunisien hier. Ben Ali qui n'a jamais été emprisonné malgré sa condamnation par contumace par les tribunaux tunisiens pour abus de pouvoir, corruption et homicide involontaire. Retour sur un épisode manqué de la Tunisie pour en parler. Farid Tamsamani, Tarek Mami dans quelques instants, et vous, auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000. Israël, peu importe qui gagne, quelle que soit la composition du nouveau gouvernement, cette élection est une tragédie. Cela signifie que les guerres perdureront, que la violence perdurera, que la haine perdurera sans relâche. On prend les mêmes et on recommence. Retour sur cette élection législative de mardi dernier. La France avec le 45e samedi de manifestation des Gilets jaunes, dont les rassemblements auront lieu à Paris. C'est aussi ce week-end qu'auront lieu les journées du patrimoine, sans oublier la marche du climat. Un samedi de tous les dangers à Paris, nous y reviendrons, sans oublier, et pour finir, le quiz en fin d'émission. C'est parti pour le LGF, l'info autrement, sur France Maghreb 2, jusqu'à 18h.
Le Grand Forum, Christophe Fro, 16h-18h. Sur France Maghreb 2.
Dans la playlist du LGF, eh bien, l'occasion de la réécouter puisqu'elle sortira un nouvel album avec encore de très belles mélodies, de très belles chansons, une voix particulière et ô combien agréable, celle de Swad Massi sur France Maghreb 2. Et en ce vendredi 20 septembre, juste avant le week-end, ça fait vraiment du bien aux oreilles. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est vendredi, c'est le Grand Forum, et jusque 18h, on va refaire l'actualité de la semaine, et Dieu sait qu'il y en a eu des sujets très intéressants que l'on va décortiquer avec vous en nous appelant au 01 40 33 9000, avec aussi la rentrée de monsieur Tarek Mami. Bonjour Tarek, comment allez-vous?
Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme une rentrée, c'est pas un lundi. Moi je rentre le vendredi.
C'est vrai,
donc,
c'est bien.
Donc c'est excellent, comme ça je rentre le vendredi, je me repose samedi, dimanche, et c'est reparti le lundi.
C'est parfait, vous avez bonne mine en tout cas, et c'est reparti donc pour une bonne saison radio, bien entendu. Alors, monsieur Tamsamani qui devrait pas tarder de nous rejoindre, Farid.
Il est pas au Maroc?
Non, il est pas au Maroc, il est là. Tout va bien, il sera avec nous dans un instant. L'actualité d'abord, c'est la Tunisie, avec cette élection, le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 15 septembre, donc dimanche dernier, et qui a vu apparaître un scénario un petit peu inédit ou un petit peu inattendu, on va dire.
Je vous laisse continuer, Christophe, mais pour moi, Tarek Mami, c'était le scénario attendu.
Alors peut-être pour vous, mais en tout cas pour la classe politique tunisienne, oui, je pense qu'elle a été pris défaut. Puisque au second tour se retrouve donc Ziad Qais, Qais Saïd. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir le personnage puisque vous l'avez rencontré à Tunis.
Et je vous raconterai pas l'aventure pour trouver son bureau.
Ah oui. Bon, en tout cas, vous l'avez trouvé visiblement, puisque c'est sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2. Et monsieur Nabil Karoui, qui se retrouve donc tous les deux au deuxième tour. L'un fait 19, l'autre 15, hein, pour grosso modo.
En gros, 18-8, 15-54.
Voilà. Bon, voilà. 49% de participation. On va dire que c'est plutôt correct.
À la dernière minute, parce qu'on était plutôt à 39, et vers 17h, on était plutôt à 45. Et quand on a fermé, ils nous ont annoncé 45. Et quand tout a été compté, c'est passé à 49. Presque 50%.
Ce qui est pas mal.
Dans la configuration actuelle de la Tunisie, oui, d'autant plus qu'il y a eu 15% de participation municipale.
Oui,
alors, 6 mois avant.
Par contre, petit bémol pour la participation ici en France, puisque les Tunisiens résident en France, 19,7%.
Oui, un peu moins que 20.
Voilà, c'est pas beaucoup quand même.
Alors il y a plusieurs explications, puisqu'on va parler vite, cher Christophe. D'abord, parce qu'il n'y a pas eu de campagne. La campagne a duré une semaine, en quelque sorte.
Oui.
La deuxième chose, c'est que les candidats ont été interdits de communication dans la presse étrangère. Et par exemple, nous, on avait l'accord de 5 candidats sur le 26, mais tous nous ont appelés pour dire qu'ils ne peuvent pas intervenir, sinon ils vont être disqualifiés, parce que l'ISI les interdit de presse étrangère, au nom du principe de l'égalité de tous les candidats, parce qu'ils ont dit que quelques candidats ont des connaissances dans la presse internationale, notamment France Maghreb 2, mais tout le monde n'a pas ces connaissances. Donc ils ont fermé le pays et la bataille s'est passée à l'intérieur.
À l'intérieur.
Donc les gens ont...
Avec le débat, hein, les débats.
Oui, avec les 3 débats.
Une première en Tunisie.
Alors, j'insiste pour, contrairement à ce qu'a dit quelques chroniqueurs, une première en Tunisie.
Voilà, je m'arrête là, moi.
Non, une première en Afrique, une première dans le monde arabe. Dans le monde arabe et en Afrique, il y a eu quelques débats, deuxième tour entre 2 candidats. Mais faire tous les candidats, les 26, c'est la première fois. Et j'ai cherché. Quand nos amis m'ont appelé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Premier tour, c'est la première fois. Mmh. Et alors, par contre, ça s'est très bien passé sur la forme, mais c'est frustrant sur le fond, parce que imaginez, cher Christophe, vous qui animez cette émission depuis des siècles maintenant, imaginez que vous posez une question assez dure.
Oui.
Et vous dites à la personne, vous avez 1 minute 30 pour répondre.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise en 1 minute 30
bah, c'est un peu le principe du débat aussi en France, quand on conclut.
Oui, non, mais quand on conclut,
temps, pas. C'est chronométré, je veux dire.
Oui, c'est chronométré. Mais on ne dit pas 1 minute 30 par question.
Ah oui, oui c'est vrai.
Je ne sais pas comment ça marche en France, mais bah, peut-être
la,
qu'on
c'est
dit.
La minute, c'est à la fin, quoi. Pour la conclusion, voilà, bah, vous avez 1 minute 30, voilà.
Ça, c'est OK. Mais pour le reste, on peut dire, vous avez 25 minutes, et vous répondez plus longuement dans les questions que vous voulez, vous ne répondez pas dans l'autre, et vous avez le chronomètre devant
c'était
vous.
C'était bâclé, en fait.
C'était pas bâclé, c'était tellement précautionneux pour obtenir cette fameuse égalité malgré
de temps de parole,
malgré la présence de Monsieur Karoui en prison et la présence
qui n'a pas débattu.
Bah qui n'a pas débattu, donc c'était inégalité sauf deux.
Ouais.
Alors en réalité il y avait 26 candidats retenus en définitive, deux se sont retirés par Monsieur Sbidi. Il s'en restait 24 et deux n'ont pas pu participer. Donc le débat a eu lieu entre 22 candidats.
22 candidats. Alors le scénario quand même est assez. Je trouve pas le mot tellement quand même la situation est un petit peu
mon papier
particulière.
Qui sera publié tout à l'heure, cher Christophe, sur France Maghreb 2, s'appelle la démocratie des dégagismes.
Oui.
C'est-à-dire que les Tunisiens ont pris une sale habitude ou une bonne habitude, c'est qu'ils ont dégagé. Disons que Ben Ali a commencé par dégager Bourguiba en 87. Il
oui.
est resté 23 ans.
Oui.
Le peuple tunisien a dégagé Ben Ali, Nahda s'est installé, et le peuple tunisien a dégagé Nahda en quelque sorte, en 7 ans. Donc ça va beaucoup plus vite. Et ils me disent, moi, dans les cafés, dans les restos et dans les taxis, de toutes les façons, on va les dégager, c'est pour ça que je vous dis, moi je savais qu'ils allaient perdre l'establishment politique, et donc on appelle ça du système. Je savais que le système allait être dégagé. Moi, on me dit, on va choisir d'autres, et si les autres ne réussissent pas dans 5 ans, on va aussi les dégager. Donc il y a une espèce de prime à la porte de sortie. On a tous de la mémoire. En France, c'était Georges Marchais qui disait « il faut sortir les sortants
oui. ».
Les Tunisiens ont sorti les sortants. En France, c'est Mélenchon qui rêvait de dégager le système. Donc il en a rêvé et les Tunisiens l'ont fait.
Ouais. Alors Tarek, quand même, ce qui est quand même incroyable dans cette configuration de ce deuxième tour qui opposera, je rappelle, Nabil Karoui et Monsieur Qaïs Zied.
Qaïs Saïd.
Qaïs Saïd.
Il va falloir apprendre
son
nom.
Je sais,
parce que
bah peut-être oui,
que...
peut-être le futur.
Autant... Excusez-moi, un changement
votre toux s'est pas arrangé pendant les vacances.
Non,
en tout
non,
cas.
Mais elle s'est arrangée, mais là, entre la température de Tunis.
Où il fait beau
35.
Ah oui.
Hier et avant-hier, toute la semaine. Et tu es à Paris où il doit faire un 22 ou 23. Donc, il faut que le corps s'adapte.
C'est clair. Alors, donc, monsieur Qaïs Saïd.
Oui.
C'est quand même qu'il y a un candidat qui est en prison, Tarek. Oui. Comment les Tunisiens ont pu voter pour quelqu'un qui est en prison?
Alors, il y a deux choses. Et là, on rentre dans le fond du sujet.
Ah bah oui, c'est ça qui nous intéresse.
Voilà. À partir du mois de exactement le 22 mai 2015, mon papier le précisera, cher Christophe, un premier sondage est sorti. Et dans ce premier sondage qui est sorti, Qaïs Saïd était dans les premiers.
Ouais.
Nabil Karoui était dans les deuxièmes. Shahed était à 7%. Et tous les restes qui étaient déclarés étaient déjà à moins de 10. Il n'y avait pas encore à cette date-là la mort du président Béji. Il n'y avait pas encore la campagne électorale. Il n'y avait pas encore les débats. Puis, alors ça a été publié, c'est un sondage de l'Institut Sigma, publié dans le journal très sérieux quotidien qui s'appelle Le Maghreb. Tiens, comme par hasard, France Maghreb, et là-bas c'est le Maghreb. Deuxième sondage, publié le 16 juin.
Ouais.
Il donne exactement les mêmes résultats, sauf que c'est Nabil Karoui qui est premier, et c'est Qaïs Saïd qui est deuxième. Saïd est toujours à 7, et tous les autres candidats n'existent pas.
D'accord.
Et en Tunisie, ils ont une loi un peu spéciale, mais chaque pays ses lois. Deux mois avant la date des élections, c'est-à-dire le 15 juillet, les sondages s'arrêtent. Mais
ils continuent.
Mais ça n'arrête pas pour les partis politiques qui commandent tous les jours et qui reçoivent tous les jours. Et moi, j'ai eu une dizaine, à part les collègues journalistes, les quelques hommes politiques que je connais, de 15 juillet jusqu'au samedi soir, veille de vote, tous les sondages donnaient Nabil Karoui devant et Qaïs derrière. Avec en gros 19 pour Karoui et 17 ou 16 pour...
En fait, le scénario inverse, quoi.
Oui. Non, mais sauf que ces deux-là ont toujours été.
Oui, d'accord.
Ce qui fait que, comme moi, les hommes politiques me disent en Tunisie et une partie de la presse, c'est une surprise, je dis non, monsieur, il n'y a aucune surprise. On dirait que les Tunisiens ont arrêté leur choix le 5 mai 2019. et que la surprise, c'est que ce soit Qais devant Qaroui et pas Qaroui devant Qais. Et donc, c'est le papier que j'écris, qui sera publié tout à l'heure.
Alors, sur le fait qu'ils soient en prison, Tarek, le fait que Nabil Qaroui soit en prison et que les Tunisiens aient quand même voté pour quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui n'a pas débattu, quelqu'un, alors peut-être que j'exagère un peu, mais qui a fait aussi un peu partie du système, puisqu'il était patron de l'Espa TV, il a créé Nida Tunis.
Il avait, et alors très bien, moi dans mon papier j'ai écrit ça, Christophe, qu'en fait, il y a un hors système pour deux bancs,
c'est Qais. Seul, c'est Qais, c'est Saïd.
Et comment s'appelle? Monsieur Qaroui a participé au système, à la création du système, il a participé à la création d'Nida Tunis, le parti.
Voilà.
Il a participé à faire élire le président de la République.
Oui.
Il a participé à faire donner au président de la République une majorité au Parlement.
Oui.
Et last not the least, comme disent les Américains. Et donc, en dernier point, et c'est pas le tout à fait dernier, qui n'est pas le moins important, c'est lui qui a participé, cher Christophe, à l'organisation de la réunion entre Béji, Kaïd Sepsi et Rachid Ghannouchi à l'hôtel Bristol à Paris, en août 2013. Donc c'est lui qui a poussé à ce qu'on appelle en Tunisie le tawafak, c'est-à-dire l'unanisme ou l'accord entre les partis, et il l'a fait avec qui? Avec l'autre candidat à la présidentielle, monsieur Riahi, l'ancien patron de la du club africain. Et donc monsieur Qaroui, j'allais dire, fait partie du système, a créé le système. Mais les Tunisiens ont une phrase extraordinaire.
Ouais.
On dit c'est un homme qui a sauté à la mer quand il a vu que le bateau allait couler.
Merci.
Et ça, c'est repris par les gens et c'est repris chez beaucoup de, comment dire, de commentateurs. Monsieur Qaroui est l'homme qui a su sauter du bateau au bon moment. Et donc, suite au premier sondage de mai et surtout au second sondage de juin, monsieur Ghannouchi dit la presse tunisienne, dit l'avocat de monsieur Qaroui et monsieur Chahed ont fait une alliance pour éjecter de la candidature monsieur Qaroui. Et donc ils ont fait la fameuse loi de modification du code électoral pour qu'il puisse pas participer. Mais cette loi devait être signée par le président Béji, et pour des raisons obscures à ce jour qui n'ont toujours pas été expliquées, monsieur Béji n'a pas signé. Et donc monsieur Qaroui a pu se présenter, Christophe. Et à partir du moment où il s'est présenté, la haute autorité donc qui s'occupe des élections, elle a dit c'est un candidat normal accepté. Ça, c'était en gros fin juin.
Il n'était toujours pas en prison, on est d'accord.
Voilà, il était toujours pas en prison. Autre péripétie, pour que les auditeurs aient une vision globale, c'est que le juge a convoqué, alors il y a une grosse association en Tunisie qui s'appelle Je suis éveillé, en fait, qui est un peu Watch international, qui a déposé, Christophe, retenez la date, chers auditeurs, chers auditrices, une plainte en 2016 contre 26 personnes en Tunisie accusées de corruption. 26, pas une. Et donc début juillet, avant l'échec de la, comment dire, avant l'échec de la loi, c'est-à-dire avant la non-signature par le président, il a été convoqué par un juge d'instruction, M. Qaroui, à deux ou trois reprises. Et donc, il est entendu pendant 3, 4, 5 heures en espèce de garde à vue à la française, et il part. Et le juge d'instruction a décidé à trois reprises de ne pas le mettre en prison en préventif. Et tout d'un coup, donc, il lance sa campagne une fois qu'il est reconnu comme candidat. Ils ont eu le malheur, ou lui, il a eu la chance d'avoir été, de ne pas avoir été arrêté, jusqu'à la date où il a déposé, cher Christophe, sa candidature qui a été validée. Mmh. Parce que s'il l'avait arrêté 3 jours avant, il n'aurait pas pu déposer sa candidature.
Mmh.
Bon, une fois qu'il a déposé sa candidature, elle a été avalisée, légalisée, et il part en province du côté de Béja pour faire donc un des premiers meetings. Et à la sortie de ce meeting, en revenant, il trouve que l'autoroute est vide, elle est bouclée. Et quand on arrive au péage, il y a une vingtaine, dit-on, une trentaine de policiers, deux ont tenu tous les restes en civil, qui ont arrêté sa voiture, qui l'ont fait descendre, qui lui ont mis le menotte, et pour lui dire, vous êtes en état d'arrestation. Là, il demande donc le papier, le document, et lui dit, il n'y a pas de document, tu le verras en prison. Et ils ont bloqué, parce qu'il y avait un cortège de voitures avec lui, ils ont bloqué le cortège derrière et ils ont amené monsieur Qaroui donc dans une voiture de police comme n'importe quel vulgaire assassin recherché. Et c'est quand il rentre en prison que le président, le directeur de la prison lui montre le mandat d'arrêt. Alors édité le matin même, en clair édité à 11h, il a été arrêté à 13h. Voilà la justice tunisienne dans le cas de ce monsieur. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à dire, c'est extraordinaire, Christophe. Ils disent, il est mafiosi, il est peut-être mafiosi, il a traficoté, il a peut-être traficoté, mais on n'arrête pas quelqu'un 15 jours avant le premier tour des présidentielles. Pourquoi ils l'ont pas arrêté?
Qui avait intérêt à le faire?
Shahed et Ranouchi, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il était le candidat sérieux donné par tous les sondages premiers à l'époque. Et donc, si,
ils se sont plantés alors.
Ils se sont plantés complètement. Et le troisième était donc le candidat de Nardan Mourou.
Oui.
Donc, en arrêtant lui, il pouvait pas toucher Kaïs parce que il n'a pas de casserole, entre guillemets, ou de soupçon de casserole. Et donc, il y aurait eu Kaïs et Nardan.
Oui.
Et là, ils se sont plantés. Et quand il est rentré, beaucoup de gens, je vous dis, on votait pas pour Karoui. Mais on n'aime pas l'injustice, l'expression, je l'ai écoutée plusieurs fois, et on va voter pour lui, pour emmerder Shahed et pour dégager Shahed.
Ça, c'est le point de vue sociologique.
Sociologique, chauffeur de taxi, restaurant et café.
D'accord. Donc, en fait, on a voté Karoui pour justement montrer son mécontentement.
Et de dire, on n'aime pas
le traitement qui lui a été fait.
Voilà.
Ou qu'on n'aime pas le personnage.
Voilà, c'est ça. Et alors, et en fait, après, j'ai rencontré plein de ce que j'appelle moi les électeurs de Nardal 2011, que me disaient, nous, on a voté en 2011 pour Nardal parce qu'ils étaient dans la même situation que Karoui aujourd'hui. Ils avaient été emprisonnés par le Ben Ali. Et ils étaient injustement en prison. Donc, on a voté pour eux, pour leur donner une chance et pour les réhabiliter socialement.
Donc, si je vous suis, Tarek, ce que je fais depuis tout à l'heure, si je comprends bien la logique sociologique qui devrait se produire au deuxième tour de cette élection, les Tunisiens vont dire oui, ok, on a voté au premier tour pour le mettre au deuxième tour, Monsieur Karoui. Maintenant, on va être sérieux. Monsieur Kaïs Saïd a un vrai boulevard devant lui.
Alors, il y a les deux possibilités à l'arrière. Trois hypothèses. Je vais vite parce que il y a tellement de choses à dire sur cette situation. La première, c'est que Monsieur Karoui est libéré avant le deuxième tour.
Pour l'heure, on rappelle, il est toujours incarcéré.
Voilà.
Voilà. Il y a eu de nombreuses demandes de libération qui ont toutes été rejetées.
Elles ont été rejetées sans être étudiées. La Cour de cassation, qui est le tribunal le plus haut dans tout le pays du monde, donc en France comme en Tunisie, s'est déclarée tout simplement incompétente.
Oui.
Alors quand dans un pays, vous avez la plus haute juridiction, le plus haut tribunal qui vous dit incompétent, qui est compétent? Quelqu'un m'a dit hier, il m'a dit, monsieur Mami, ils ont trouvé le juge pour le mettre en prison, mais ils n'arrivent pas à trouver un juge pour le
libérer. Ouais. Voilà, non, mais c'est quand même incroyable ce qui se passe quand même.
Tout à fait. Alors, ce juge-là, qu'il a écouté trois fois ou deux fois en juillet, ne l'a pas mis en prison, mais par contre, lui a retiré son passeport, interdit de voyager et bloqué ses comptes bancaires.
Ouais.
Que fait M. Karoui, comme tous les citoyens du monde? Ben, il fait appel de la décision du juge.
Bien sûr.
Bon. Il se trouve que quand il a fait appel, la date a été fixée pour étudier son dossier le 23 août.
Mmh.
Donc le 23 août, lui, il n'a pas besoin d'aller puisque c'est son avocat et puis c'est la chambre d'accusation qui se réunit. Alors il y a un principe en droit universel en France, en Tunisie et partout dans le monde. J'ai oublié comment ça se dit en latin, mais je peux vous le redire tout à l'heure. Il y a un principe qui dit personne n'encourt une sanction supérieure de ce qu'il a eu en cas d'appel.
Ouais.
C'est-à-dire que quand Monsieur Karoui a été quand le dossier est arrivé, Monsieur Karoui il dit enlevez-moi mon interdiction de voyage et libérez mes comptes. Donc la cour d'appel dans la section donc chambre d'accusation comme ici on a suivi un peu le dossier de Monsieur Tarek Ramadan, vous rappelez, qui rejette à chaque fois sa libération.
Oui.
Elle dit je n'enlève pas l'interdiction de voyage, je n'enlève pas le blocage des comptes. Jusque là c'est normal. Mais j'y rajoute une arrestation immédiate. Et là, d'un point de vue juridique, tous les juristes tunisiens disent on ne comprend pas, ça ne peut être qu'une pression politique. Et hier, l'avocat de M. Karoui a sorti à la télévision sur France 24, mais une phrase terrible. Il dit, je vous dis, moi qui suis avocat, qu'en fait, l'arrestation et le mandat ont été faits par deux parties. Par M. Shahed et Nada. Aujourd'hui, M. Shahed est par terre. Donc, normalement.
7%,
il va dire, j'ai levé la main, c'est pas moi. Et s'il n'est pas sorti aujourd'hui, c'est que l'autre parti, Nardin, ne veut pas le libérer. Pourquoi? Parce que dans les sondages, le parti de M. Karoui criait fin juin et donnait gagnant des législatives comme il a été donné gagnant, en tout cas pour passer au deuxième tour à la présidentielle. Et Nahda refait la même faute que la première fois. Elle pense qu'en gardant M. Karoui en prison, son parti ne va pas remporter beaucoup de sièges à l'Assemblée. Mmh. Or, moi, des gens, des chauffeurs de taxi m'ont encore dit, on hésite entre Kaïs et Karoui, mais si Karoui est en prison, on votera Karoui pour renvoyer un deuxième message au Nahda, que toi tu dégages et que tu laisses les Tunisiens décider. Voilà, un petit peu.
Bon, alors on va essayer de démêler de tout ça, parce que c'est vrai que c'est une situation que vous nous avez expliquée et très intéressante.
Alors je terminerai par le droit.
Oui, un juge après la pub.
Oui, après on reviendra dans le détail. Un juge d'instruction décide de ne pas mettre M. Karoui en prison. La chambre d'accusation augmente la peine et le met en prison. La cour de cassation dit, je suis pas compétente, je sais pas quoi faire. Elle renvoie le dossier, au petit juge. Moi, je l'appelle le petit juge, premier étage. Le petit juge, hier, a décidé, et il a dit la phrase suivante. Moi, je n'ai pas donné de mandat de dépôt, donc je ne peux pas l'enlever, c'est pas mon problème. Allez revoir la chambre d'accusation qui a mis le dépôt, et maintenant, le dossier est remonté devant la chambre d'accusation, qui est devant un cas extraordinaire. Elle assume où elle se couche.
Monsieur Tabsamani, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, désolé pour ce retard.
Je vais sanctionner au bout d'un moment.
Bah, tu peux. Ils ont fait un nouvel agenda des gagnants, là. Il n'y a pas que les quiz, il y a le gagnant quiz.
Ouais,
et c'est le gagnant des horaires.
Vous faites bien
et
de le dire.
Et celui des horaires est supérieur à celui des quiz.
Je suis souvent en retard, je m'en excuse.
Bon, allez, il y a la pub. Heureusement, vous allez pouvoir souffler.
Merci.
Et dans un instant, tu vas pouvoir nous donner ton avis aussi sur cette situation un petit peu inédite, quand même, hein, des élections tunisiennes avec ce deuxième tour, dont on connaît toujours pas la date d'ailleurs, hein.
Alors, ça c'est après la pub.
Voilà,
en
c'est
fait,
ça.
La date
vous
sera fixée
ou pas
après la pub. Oui, je la connais.
Ah bah très bien. Alors restez bien avec nous et pour évidemment nous appeler si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'explications supplémentaires, profitez de nos deux experts au standard ici au 01 40 33 9000. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est le Grand Forum avec Farid Tabsamani, Tariq Mami qui sont là tous les deux. Et en ce vendredi, Tourim, c'est parfait. On est bien installé confortablement pour refaire et décortiquer l'actualité. Une actualité qu'on vous expliquera pas de cette manière-là ailleurs. Ça, soyez-en sûrs. On a pris le temps avec Tariq Mami de vous expliquer ce qui s'est réellement déroulé et ce pourquoi Nabil Karoui a été placé en prison et surtout ce pourquoi il y reste encore. Alors je vous posais la question Tariq Mami juste avant la pause. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on connaît la date du deuxième tour de cette élection présidentielle qui opposera, je le rappelle, monsieur Kaïs Saïd qui est arrivé en tête du premier tour à monsieur Nabil Karoui qui lui est en prison.
Vous savez Christophe, j'étais normand dans une autre vie.
Oui.
Donc la réponse c'est oui et c'est non. Alors la réponse c'est oui. Parce que la Tunisie aujourd'hui est tenue par un calendrier de recours au tribunal administratif. Donc, le recours, là, c'est terminé hier. Et on a des délais pour que le tribunal administratif rende sa décision. Un nouveau délai de nouveau recours à la cour d'appel administratif. Et un nouveau recours, donc, pour la décision de la cour d'appel administratif. Donc, si ça marche, très vite, si le tribunal ne prend pas les 3 jours ou les 4 jours pour rendre le lendemain, on pourrait se retrouver avec une élection le même jour, législative et présidentielle, à savoir le 6 octobre, parce que les législatives sont fixées, ne bougent pas. Si par contre, il y a beaucoup de recours, et on me dit qu'il y en a eu 2 sur les 24, et que le tribunal n'arrive pas, n'a pas les moyens, parce que par ailleurs, il est en grève, parce qu'il demande, il demande les moyens financiers pour tourner, et il demande surtout que l'État exécute la totalité des décisions du tribunal administratif déjà produites depuis 3 ans, qui ne sont pas exécutées par l'État, donc par la police. Donc, si ça traîne, ça sera pour le 13 octobre, donc, il y aurait un dimanche pour législative, et le dimanche suivant pour les présidentielles deuxième tour. Et le résultat, à mon sens, ne seront pas les mêmes si l'élection a le même jour. En tout cas, elles ne peuvent pas être prévisibles. Si l'élection est le même jour, c'est difficile de prévoir qui gagne la présidentielle. Par contre, si l'élection présidentielle est une semaine après la législative et que Karoui sort premier des législatives, vous connaissez la règle, la victoire va au gagnant. et il aurait deux raisons de gagner la présidentielle, le fait d'être en prison et le fait d'avoir la majorité au Parlement, et les Tunisiens diront...
Ah oui, donc tout reste à faire en fait.
Tout reste à faire,
voilà. Tout est possible.
Tout est possible.
Farid, tu vois de quel œil tout ce qui s'est passé en Tunisie là, avec ce deuxième tour qui est offert aux Tunisiens, avec ces deux candidats que beaucoup d'observateurs n'attendaient pas, hein, que les Tunisiens, en l'occurrence eux, ne sont pas surpris. La classe politique ont été
surpris.
Moi, je l'attendais. Les sondages, d'ailleurs, comme l'a rappelé Tarek Pamy tout à l'heure, donnaient ces deux personnages arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, pas de surprise de ce côté-là.
Elle les donne gagnants depuis mai 2019, systématiquement.
Alors, vous avez un candidat qui est effectivement un candidat hors système, qui est candidat indépendant, qui pour le coup d'ailleurs, s'il est élu président, devra de toute façon et de facto
cohabiter.
Donc ça quand même occasionnerait quelques difficultés pour gouverner. Et vous avez un autre candidat qui lui fait partie du système, il s'appelle Nabil Karoui, qui lui est en prison. Visiblement et d'après ce qu'on en a compris de notre analyse, à la demande de deux partis en particulier, de deux personnes, donc Narda et Chahed. Farid, quelle est ton analyse ?
Bah, moi, je veux d'abord rappeler, sous couvert du spécialiste sur le plateau, en tout cas de la politique, en tout cas du système politique tunisien après révolution, c'est que on est en Tunisie essentiellement de plus en plus vers un système parlementaire et non pas du tout présidentiel. Là, le hasard du calendrier, c'est que l'ancien président personnable est décédé, et donc du coup, il a fallu, selon la Constitution, organiser une présidentielle, mais techniquement, la présidentielle devait arriver après les législatives. Le président de la République en Tunisie a essentiellement, encore une fois, sous réserve, essentiellement un rôle honorifique. En vérité, il gouverne très peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'influence, mais il gouverne...
Il a quand même deux compétences.
Oui.
La politique étrangère, qui est énorme.
Qui est beaucoup.
Voilà. Et ce qu'on appelle en Tunisie la sécurité nationale.
Bon. Mais...
Le reste, non. Il peut pas mettre sa main dans la marmite quotidienne.
Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la véritable élection,
oui,
c'est la législative.
Tout à fait. Ça, c'est clair.
Ça, oui. C'est celle-ci.
Oui.
Maintenant, moi, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour le peuple tunisien. On n'attendait pas une révolution en Tunisie, dans tous les pays du monde arabo-musulman. C'est en Tunisie qu'elle a eu lieu, et d'une certaine, avec brio. Donc voilà, on n'attendait pas finalement un apprentissage. C'est un peu prétentieux ce que je dis là, mais un apprentissage de la démocratie aussi rapidement. Finalement, ils le font plutôt bien. Donc moi, je pense que le peuple tunisien mérite largement d'être applaudi dans son ensemble, parce que effectivement, ils vivent aujourd'hui l'apprentissage d'une démocratie, et qui est un modèle, à mon avis, pour l'ensemble du monde arabe, et qui vient bien au-delà, à mon avis, du Maghreb et de la Méditerranée. Maintenant, la situation, c'est quoi? C'est qu'il y a eu, à un moment donné, une immixtion du politique dans le judiciaire. D'ailleurs, on n'arrive pas à s'en dépatouiller. On a un chef d'entreprise politique emprisonné. Le calendrier a été très mal tenu, en vérité.
C'est-à-dire oui, on l'a bien compris dans l'analyse de Tarek, ils ont commis une erreur terrible.
Complètement. Et comme le hasard faisant bien les choses, ou en tout cas Dieu faisant bien les choses, on a quasiment au même moment, c'est-à-dire en pleine élection, en pleine campagne, le décès de l'ancien président, l'ancien dictateur, appelez ça comme vous voulez, en Arabie Saoudite. Donc tout ça, c'était des clins d'œil assez intéressants à gérer. Je ne sais pas comment les Tunisiens vivent le décès de l'ancien président Ben Ali, mais en tout cas, moi je trouve ça, c'est très intéressant. Et je suis désolé, il n'y a pas de comparaison possible, mais on est obligé quand même de la faire avec le voisin libyen et le voisin algérien. On n'est pas dans les mêmes situations. Bien sûr, ce sont deux contextes complètement différents. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'estime et je dis bravo au peuple tunisien.
Tarek Mami, justement, la transition est toute trouvée. Merci Farid. On a appris effectivement la disparition, la mort de Zine Abidine Ben Ali. D'ailleurs, les rumeurs avaient fuité déjà depuis un moment. Mais bon, il n'était pas mort, visiblement. Ouais. Mais malade, ça c'est sûr. En Arabie Saoudite. Ça a été confirmé sur notre antenne dans cette émission hier par l'avocat de Zine Abidine Ben Ali, ici à la radio. Mais comment est accueillie justement cette disparition? Sachant que j'ai posé la question à l'avocat en lui disant, mais est-ce qu'on peut envisager à ce qu'il soit enterré, inhumé en Tunisie, quoi, chez lui, dans son pays? Il nous a répondu que non, que la volonté, quand il était vivant, c'est d'être enterré à la Mecque. C'était sa volonté. J'ai vu apparaître tout à l'heure qu'il pourrait y avoir quand même des funérailles d'organiser en Tunisie. Comment ça se passe, cette gestion?
Ça c'est le peuple tunisien, comme disait tout à l'heure Farid. Je vais rebondir ce qu'a dit Farid. Moi, ce qui m'a surpris en étant en Tunisie et en rentrant, en Tunisie, c'est les cafés, c'est les taxis, c'est les petits restaurants populaires, j'allais dire où le repas est entre 3 dinars, 1 euro, où je rentre, je papote, j'écoute et après je provoque, bien sûr. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les Tunisiens ont eu Bourguiba pendant 30 ans, 59, 87, 57, qu'ils ont eu Ben Ali 23 ans, mais avec des régimes durs.
Durs, oui, bien sûr.
Et que les Tunisiens qui ont dégagé Ben Ali...
Totalitaire plus que dictateur.
Oui, autoritaire. Oui, autoritaire plutôt que dictateur.
Mmh. Et la vraie dictature...
Non, la dictature, c'est pas ça la définition, on en a parlé beaucoup fois.
Oui, oui, voilà.
Totalitaire si on veut un peu, mais surtout autoritaire et qui détient tous les pouvoirs entre ses mains. Oui. Donc c'est ça la grande différence.
Et puis qui s'est laissé manger surtout dans la deuxième partie de son mandat par la famille de sa femme. La famille Trabelsi a fait beaucoup de mal.
On est d'accord. Et donc, ils vont dégager Ben Ali après 23 ans, mais ils sont en train de dégager Nahda au bout de 7 ans. Alors sur ça, il faut faire de la remarque vraiment de la science politique. Tous les changements qui ont lieu dans le pays de l'Est. La démocratie s'est installée en gros dans un espace de temps entre 15 et 25 ans. En clair, 5 élections, 7 élections, une nouvelle génération qui arrive, l'ancien qui disparaît. On prend cette habitude de. En Tunisie, 7 ans. Et 7 ans, c'est rien du tout. Wow. C'est vraiment pour là, c'est un gamin qui est né. Qui est
ce... C'est même pas une demi-génération.
Voilà. La deuxième chose, c'est que quand Ben Ali est parti, il y avait un État. Mais il n'y avait plus, comment dire, de structure gouvernementale forte. Et Nahda est arrivé, est resté 3 ans au pouvoir, et elle était déjà dégagée par la population, et elle était obligée, donc, de faire des accords avec Béji et tout ça. C'est très, très important. 3 ans au pouvoir. Et elle est venue avec une constitution dans l'article 1er, l'islam et la religion de la Tunisie. Article 3, la femme et la moitié de l'homme, elles sont complémentaires. Vraiment avec un truc dit islamiste classique. Et avec les gens dans la rue pendant tout le mois de Ramadan, ils nous ont sorti quand même une constitution assez lumineuse, même si elle a encore des problèmes. Et ce qu'ils ont fait, les Tunisiens, ils disent que Nahda est passé derrière le rideau. Et donc, au lieu d'être en façade du pouvoir, elle s'est cachée derrière Nida Tounes et derrière Chahed, et elle a gouverné. Et donc, ce que les Tunisiens ont fait à la présidentielle, c'est qu'ils ont dégagé les reliquats du régime de Bourguiba et de Ben Ali qui sont rentrés par la fenêtre, avec l'alliance, avec Nahda qui est rentrée. Et donc, moi j'ai fait un papier, je l'ai dit tout à l'heure, Christophe, qui s'appelle « La démocratie du dégagisme ». Et ils disent maintenant, on va dégager tous ceux qui ne respecteront pas leurs paroles, leurs promesses. Et on dirait qu'ils ont compris comment ça marche et qu'ils prennent plaisir à approfondir. Sur Nahda, 3 chiffres, Christophe, qu'il faut retenir. Élection 2011, 1,5 million de voix. Élection 2014, entre 800 000 et 1 million de voix. Élection municipale 2019, 400 000 voix. Élection premier tour présidentiel, 320 000 voix. Et comme dit l'autre, et au prochain coup, combien il y en aura? C'est ça, un petit peu ça.
Je vous trouve très dur.
Non, mais j'essaye, et sincèrement, de donner des
faits. Sur les chiffres.
Non, mais ils sont rien.
Vous tapez. Mais en fait, là, c'est.
Vous avez remarqué que c'était pas ma question, en fait, à la base.
Ouais, non, mais je vais revenir.
Non, juste là-dessus, si je peux me permettre.
Parce que c'est important.
Pour un peu taquiner, cher Tariq, sur les chiffres, moi, je pense que Nahda a. Il faut pas oublier les manifestations de certains Tunisiens.
Oui, tout à fait,
dans la rue, oui. Effectivement. Contre Nahda.
Voilà.
Nahda, malgré tout les reproches qu'on peut leur faire, a quand même eu de l'intelligence. Moi, en tout cas, je sais pas si c'est le parti ou c'est le chef.
C'est le chef.
Je pense que c'est.
Alors, c'est un pragmatisme.
C'est plutôt
pour
le
nous,
chef.
Et pour les Tunisiens, c'est un pragmatisme de façade.
Certainement. Mais il a quand même eu l'intelligence. Oui. De faire un pas en arrière, de se retirer.
Oui.
Tout le monde ne l'aurait pas fait ça. Ouais. Il a quand même saisi ça. Moi, j'invite les gens, même si je partage pas du tout ses idées, mais en tout cas, il y a une interview de lui extraordinaire sur globalement le mouvement frériste dans son ensemble dans le monde arabe. Ouais. Et il fait la comparaison, notamment avec l'Égypte. Et il dit, nous, il ne faut surtout pas faire la même
erreur. Tout à fait, on est d'accord.
Maintenant, sur les chiffres, et notamment sur l'élection présidentielle, ça, tout, on a remarqué qu'en réalité, il a annoncé, il a mis quelqu'un devant. Mais en vérité, il a mis quelqu'un juste parce qu'il, pour dire, on y va, mais en réalité, je veux pas dénigrer celui qui est au second tour. Pour certains qui considèrent qu'il est relativement conservateur. Il est beaucoup plus proche des théories d'Ennahda.
Sans en être. Et sans en être, sans en avoir jamais été.
Alors, j'ai peut-être une théorie, mais, encore une fois, c'est une pure supposition. J'ai aucun élément factuel qui peut amener à prouver ce que je vais dire là. Je suis moi davantage des élections un peu plus au sud de l'Afrique. Et il y a un pays où qui a eu une élection l'année dernière qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et le président
très compliqué.
Pays magnifique, extrêmement riche, etc., etc. Le président sortant sous la pression des Occidentaux et notamment de l'ONU
est passé derrière le rideau.
Et il avait son candidat.
Il est passé derrière le rideau.
Sauf qu'en réalité, les gens ne le savaient pas, c'est qu'il avait un deuxième candidat qui lui est arrivé en tête et surtout qui a gagné la présidentielle. J'espère, mais encore une fois, la comparaison n'est peut-être pas la bonne.
Alors, je peux vous rassurer, Chafarid.
D'accord.
Elle n'est pas bonne parce que le Kaïs est ce qu'on peut appeler en sciences politiques un électron libre.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'obéit et qu'il ne peut obéir de par son propre logiciel ni à Nahda, ni à quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, on a découvert que derrière lui, depuis toujours, il y a un parti d'extrême gauche qui s'appelle Ouattad.
D'accord.
Qui, lui, est pour exploser la Tunisie dans un régime régionaliste, parce que ce parti a beaucoup souffert sous Bourguiba par le centralisme de Tunis.
D'accord.
Et il dit, il ne peut y avoir de démocratie en Tunisie et de liberté que si on éclate, c'est comme si la Tunisie était faite, au lieu que ce soit 23 ou 24 gouvernorats, ça devient 24 régions à l'américaine pour que chaque région gère. Ok. Et donc, il a, dans sa trajectoire intellectuelle, puisé dans cette idée que la démocratie, c'est la région qui est une idée d'extrême gauche tunisienne. C'est un petit peu Mélenchon avant en terme et tout ça. Et en même temps, il est très conservateur, c'est-à-dire qu'il partage en gros 60% des logiciels de Nahda, sans être de Nahda. Et il l'a dit hier, avant-hier, il a dit, moi je suis pas et j'en veux pas.
Vous me rassurez.
Non, il est clairement. Par contre, il se trouve que son logiciel, c'est un logiciel Nahda.
Oui, c'est plutôt, à mon avis, c'est plus un logiciel du tunisien moyen,
conservateur
plus cela. Alors, en tout cas, vous me rassurez.
Et je termine sur un truc. Alors, il a deux surnoms. Et là, le surnom de Robocop, dans le son de la voix. Parce que quand il parle aux gens, en fait, il n'est pas un homme politique classique qui s'adresse à un truc. C'est le professeur qui est dans la fac et qui vous envoie des vérités à votre cerveau. Et donc, c'est un espèce de gourou à ce titre-là. Et moi, j'ai fait l'interview, je l'ai vu, j'ai vu les gens. Donc, il a cette force. Mais en même temps, il est très indépendant, très conservateur. Il a une qualité, la seule que j'apprécie, ou il y en a deux, c'est qu'il est très maghrébin.
Oui, d'ailleurs, son message est pas anodin. Quand il s'adresse aux Tunisiens, il dit « je m'adresse aux maghrébins ».
C'est pas que du cinéma, il est maghrébin. Et la deuxième, c'est qu'il est souverainiste tunisien, sans être ennemi de quiconque. Il dit, moi je suis souverainiste, mais il est patriote. Et pourquoi je vous dis il est maghrébin? Moi j'arrive, je connais pas le monsieur, j'ai mis 3 jours à trouver le quartier général. Et quand je trouve le quartier général, c'est un immeuble dans lequel il n'y a pas son nom, il n'y a pas sa photo, il n'y a rien. Les gens qui habitent me disent, non monsieur, il n'est pas là. Et je découvre une assemblée là-dedans. Et quand je rentre, je lui donne ma carte de visite. Et il m'a dit, comment elle s'appelle la radio? J'ai dit France Maghreb. Et il y avait 10 personnes dans la salle. Et il se lance sur une tirade sur le Maghreb. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui m'a permis de faire l'interview. Si ma radio s'appelait Azur, je sais pas quoi, peut-être qu'il m'aurait dit une radio française. Et il leur dit, voilà tout ce que je vous ai toujours dit, le Maghreb se construira hors des pays du Maghreb, parce que là où vous allez, non mais en tout cas c'est son discours,
bien sûr.
Là où vous allez vous trouver les Maghrébins, ils sont entre eux, et ils veulent le Maghreb, et dès que vous arrivez là, les difficultés politiques font que... Donc, il a cette vision-là.
Alors, on va accueillir Manji qui est avec nous et qui souhaite vous saluer, hein, tous les deux, je pense, et peut-être nous apporter son avis. Bonjour Manji.
Bonjour, bonjour Tarek, bonjour l'ami, je n'ai pas retenu son nom.
Alors, Farid, bonjour.
Farid, voilà. Alors je vais livrer à partir des mêmes éléments de langage de Tarek une autre lecture. Et ben moi je suis pas tunisien mais je vais l'arabe et je m'appelle Mounji, c'est un prénom tunisien et je suis très proche de la Tunisie et je me suis toujours intéressé à la question tunisienne.
Représentant de l'association.
Pardon.
C'est notre ami.
Oui, c'est Mounji de Marseille.
C'est Mounji du CRI de Marseille.
Voilà c'est ça.
Tout à fait voilà.
Non mais qu'on
voilà.
soit clair.
Voilà qu'on soit clair, pas de souci. Alors moi je voulais alors la lecture que je fais de cette élection, évidemment que le d'un côté on a le résultat de Nabil Karoui, c'est en fait c'est le reliquat du reste de l'ancien régime, c'est-à-dire que c'est le reliquat qui reste dans l'ancien régime, la reconnaissance du ventre, les réseaux, tout ça. Et on a de l'autre côté évidemment, Nahda l'a mis Moreau, sachant qu'il a aucune chance de gagner les élections. Ça, c'est un coup de bluff de Nahda qui manœuvre. Évidemment, qu'elle sait qu'elle est attendue au tournant. D'ailleurs, on voit bien les titres de la presse, toute la presse, il parle de la défaite de Nahda. Alors, c'est la victoire de la Tunisie. Parce que avant, on disait toujours que les islamistes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne le rendront jamais. La Nahda va démentir ce qui s'est passé avec la Tunisie. Elle a démontré que
juste 30 secondes, c'est pas la Nahda qui démontre, c'est le peuple tunisien qui démontre. C'est
oui,
pas la
même chose. Nahda l'a manœuvré très bien, vous le savez bien, avec les mouvements de blocage de la Truca, avec les mouvements de l'UTT qui a été un instrument de l'extrême gauche. On voit qu'elle a disparu quand même, l'extrême gauche. C'est la bonne nouvelle pour la Tunisie, qui a complètement disparu du paysage politique.
Et qui est parti? L'UGTT a disparu de la paysage politique.
Oui.
Bon. Je vous prends le casque parce que là, c'est comme si vous me dites aujourd'hui, je sais pas moi, que le Front National n'est plus. C'est pas possible.
Non, mais l'extrême gauche n'y est plus.
Vous dites l'UGTT ou vous êtes l'extrême gauche?
Pardon?
Vous dites l'UGTT ou l'extrême gauche?
Ah, l'extrême gauche n'existe plus.
Non, mais je suis d'accord. Non, mais pour l'extrême gauche, il n'y en a pas. Mais j'ai entendu IGTT.
Ah, oui,
non,
moi aussi, j'ai entendu IGTT.
Moi, j'ai entendu IGTT.
C'était un instrument de l'extrême gauche qui a été utilisé contre Nahda.
Attendez. Clarifions les choses. Qu'est-ce qui est l'instrument de l'extrême gauche?
Ben, le IGTT. Je parlais de la première élection qu'il y a eu, que le blocage qu'il y a eu de l'économie tunisienne, qu'on a empêché Nahda de travailler, et Nahda a eu l'intelligence de faire un pas en arrière et de se couvrir derrière, si vous voulez, le Médatounes et ce qui est resté de l'ancien régime, que le pouvoir vient, du moins que le peuple tunisien vient de mettre en deuxième position quand même aux élections, ce que je parlais de la reconnaissance du ventre et des réseaux. Là, c'est, sur ce point-là, je pense qu'on peut faire une autre lecture. Sur Monsieur Kaïs, allô.
Allez-y. Je vous ai pas arrêté.
Oui, j'allais plus vite. Sur Monsieur Kaïs, c'est en fait si la Tunisie, on va dire la Tunisie de toujours, la Tunisie arabe, parce que en fait, on le reproche de parler un arabe littéraire très bien d'ailleurs, d'être très au niveau. On le reproche son anti-sionisme, ce qu'il a déclaré, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de normalisation de relations. D'ailleurs, Habib parlait qu'il a rencontré Zin al-Abidine, malgré tous les griefs qu'on peut lui faire. Et en fait, il représente cette Tunisie verte, la Tunisie qu'on a toujours aimée, la Tunisie, pro-arabe, pro-palestinienne, la Tunisie de la Zaytouna, c'est la Tunisie de, voilà, c'est la Tunisie phare qu'on retrouve, d'ailleurs, avec cette élection, du moins cette qualification au premier tour de cet homme-là, qui porte en lui toute cette Tunisie-là, que, évidemment, sans être péjoratif, oui, que les gens qui ont grandi ici ne connaissent pas certainement.
Merci, mon Dieu.
Je n'ai pas dit le contraire, si je me suis bien écouté, j'ai pas dit le contraire.
Non, non, mais et c'est intéressant ce qu'il dit, Mondji, sur la dernière partie, surtout, oui, sur la vision, c'est-à-dire de la politique étrangère qu'a Monsieur Raïs Saïd. C'est quand même un changement radical.
Non.
Non. Ah bah, il veut pas de normalisation avec Israël.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a surpris? Ouais. Il ne transige pas avec ça.
Alors vous avez
là quand même avec Israël, vous dire que la Tunisie quand même a été plutôt plus copain que ennemi quand même.
Vous avez on dira un petit mot sur sa mort bien sûr.
Oui.
Le président Ben Ali décédé dans un discours célèbre. Le 7 novembre d'une année, il a dit une phrase terrible. Il a dit, la Tunisie ne s'ingérera jamais dans la question palestinienne, mais elle marche à côté des Palestiniens. Notre politique étrangère veut que quand les Palestiniens font un pas vers Israël et qu'Israël fait un pas vers les Palestiniens, la Tunisie fera pareil. Quand Israël fait un pas en arrière contre les Palestiniens, la Tunisie fait pareil. Donc il y a une espèce d'équilibrisme fait par Bourguiba. Nous, comme président de la République, comme disait Ben Ali et comme dit Kaïs aujourd'hui, nous serons à côté des Palestiniens et c'est eux qui décident.
Juste après la pub de Ben Ali, justement, il en sera question d'Israël parce qu'il y a eu des élections et des gilets jaunes. À tout de suite.
France Maghreb 2.
Ça s'appelle le Grand Forum et c'est évidemment sur France Maghreb 2 tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h avec aujourd'hui Farid Tamsamani et Tarek Mami. Tarek, on parlait juste avant la pub effectivement de la mort du l'ex-président Zine Abidine Ben Ali, c'était en Arabie Saoudite. Il a d'ailleurs été inhumé cet après-midi à la Mecque, comme cela correspondait à sa volonté. Et de toute façon, l'avocat nous disait hier que ça poserait des problèmes s'il avait voulu être enterré en Tunisie, c'est que sa famille n'aurait pas pu y assister. Donc voilà.
Alors vous m'aviez posé, cher Christophe, tout à l'heure, quelle est la réaction?
Oui, la réaction des Tunisiens face à la mort de Ben Ali.
Alors il y en a trois. Il y en a une qui je m'en foutiste. Il est mort, tout le monde meurt. Hier, toute l'après-midi, c'est extraordinaire. Il y a la deuxième, celle de ceux qui ont été ou qui estime avoir été maltraité par lui. Il y en a même qui disent, alhamdoulilah, Dieu a fait la punition, il est parti, bon, problème réglé, tout le tralala. Et il y a les nostalgiques, et à mon sens, ils constituent un bon 40%, un bon 50% de la population, qui le regrette sur deux choses. Ils le regrettent dans l'ordre et la sécurité qu'ils avaient vis-à-vis du terrorisme.
Ouais.
Et ils le regrettent, cher Christophe, parce que le kilo de banane sous Ben Ali coûtait 1 dinar, 30 centimes. Alors qu'aujourd'hui, il coûte systématiquement 6 dinars. Et les gens ne rentrent pas dans des considérations techniques comme notre ami Farid veut les faire sur l'économie, machin. Et ils lui disent, avec 50 dinars, on remplissait un couffin dans lequel il y a les légumes, le fruit, l'eau, la bouteille, tout ce que vous voulez. Et on rentrait chargé avec les 50 dinars. Maintenant, quand on a 50 dinars et qu'on rentre au marché, on regarde le fond du couffin. Il y a l'expression « couffin » en Tunisie, oui, le couffin. Et on regarde 3 pommes de terre, 2 tomates, 2 piments. Une petite bouteille d'eau de moitié. Voilà ce que les 50 dinars de Ben Ali donnaient. Voilà ce compte. Et donc voilà, vous avez 3 réactions. Il n'y a plus d'unanimisme en Tunisie, de dynamisme, parce que la Tunisie, pour moi, c'est vraiment aller rentrer en démocratie. Et donc les 3 opinions s'entrechoquent. Mais sincèrement, et sans faire du bénalisme primaire, entre 40 et 50% regrettent la période de Ben Ali. Parce que tout le monde ne demande pas la liberté d'expression. Tout le monde ne demande pas plein de choses. Les gens demandaient à manger, à s'habiller, à voyager. Avec Ben Ali, ils avaient ça. Bien sûr, ceux qui ont souffert, et je mettrais, j'allais dire, 25% de la population ne peuvent que lui en vouloir. Et ils ont raison. Ils ont perdu des parents, ils ont perdu la torture. Et vous avez 25%, je m'en foutisme, il est mort.
C'est quand même une question à vous poser parce qu'elle est très importante.
Allez-y, cher président.
Ben Ali a été condamné à la prison par contumace.
Oui.
Par les tribunaux tunisiens pour abus de pouvoir, corruption et homicide involontaire.
Et même homicide ou meurtre, je sais pas quoi là.
Homicide involontaire. Ouais, c'est les 3 chefs d'inculpation que j'ai retenus.
Ouais.
Il n'a jamais été extradé. Est-ce que c'est un épisode manqué de la Tunisie pour le coup?
Oui, avec 2 réponses. Ghannouchi lui-même avait été condamné à perpétuité.
Ouais.
En 86.
Ouais.
C'est Ben Ali qui l'a sauvé, parce que Bourguiba a exigé de le refaire condamner, non pas à perpétuité, mais à la peine capitale et à l'exécuter. C'est Ben Ali qui a sauvé donc Ghannouchi. Et Ghannouchi le sait. D'ailleurs, quand il va le voir au palais, il dit, il y a Dieu dans le ciel et Ben Ali sur terre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'Arabie Saoudite, de toutes les façons, n'extrade personne. et même ses propres citoyens, quand ils l'emmerdent, elle les tue, elle les découpe en morceaux en Turquie, ou elle les kidnappe.
Pour faire référence à l'affaire Khashoggi,
ou elle les kidnappe, comme elle l'a fait à Paris, comme elle l'a fait dans d'autres villes. La troisième chose, c'est que je pense que Narda, et Ranouchi en particulier, ne tenait pas à faire une démarche sérieuse de demande d'extradition, parce que lui-même, Ben Ali est parti en janvier 2011-14, de fin 2009 jusqu'à cette date-là, Ranouchi était en train de négocier son retour en Tunisie avec le gendre islamiste de Ben Ali, qui s'appelle Monsieur Matri. Et donc, s'il vient ou s'il en a, il va commencer à dire que moi je suis pas de l'ennemi de ce type, je lui ai sauvé sa vie. Et j'étais en train de négocier, on mettait les conditions pour lesquelles il rentre, et Ranouchi avait accepté les conditions de Ben Ali, c'est qu'il rentrait seul et qu'il lâchait tous ses collègues islamistes qui étaient avec lui à Londres. Et donc, d'accord. Imaginez, ouais, comme on a eu le déballage de Saddam, quelle est la
crédibilité. Non, mais c'est, voilà, c'est intéressant d'avoir l'explication. Non. Farid.
Oui, pour moi, il y a une autre explication, c'est que, il faut revenir à la révolution. Et les conditions.
Alors, beaucoup en Tunisie mettent révolution entre guillemets. Hein.
Oui,
on
bien sûr.
On utilise soulèvement social. On utilise plein de mots, mais révolution, bon.
Pour moi, dans l'histoire démocratique contemporaine de la Tunisie, ça reste pour moi
une
révolution. Bon, il faut revenir aux conditions de son départ. Voilà. Les conditions de son départ avec la gestion notamment de pays étrangers,
oui,
de son départ, et c'était aussi le deal.
Oui.
Pourquoi il s'est retrouvé en Arabie Saoudite et pas ailleurs? Tout le monde sait que l'Arabie Saoudite est quand même l'allié principal de l'oncle Sam,
oui,
que l'oncle Sam, en tout cas un de ses représentants, est la personne qui l'a mise dans l'avion. Les gens ne savent pas tout.
Il n'est pas parti, voilà. Il a été envoyé.
Et l'idée, c'est de dire, voilà, il part, il ne revient pas, il ne n'embêtera plus personne, et on laisse terminer la révolution à la condition qu'effectivement la révolution l'accueille jusqu'à la fin de ses jours. Je rappelle que son épouse ne vivait plus avec lui en Arabie Saoudite.
Elle voyage beaucoup. Lui, il n'a jamais voyagé.
Voilà.
Elle a beaucoup voyagé.
La petite, pour moi, le petit clin d'œil, entre guillemets, si je peux me permettre, sans faire de Dieu Tout-Puissant, c'est qu'en fait, il est quand même mort en lieu saint.
Alors ça, il y a une boutade qui est sortie ce matin en Tunisie.
Et il a été enterré
un vendredi. Alors là, la boutade, cher Farid, on dit de Ben Ali qu'il a expulsé l'islam de la Tunisie.
Eh ouais.
Or, il meurt en Arabie le jeudi soir, donc veille de vendredi, et il est enterré un vendredi à la Mecque. Qui est contre machin? Est-ce que Dieu ne décide pas là-haut qu'il lui a déjà pardonné?
Pour moi, voilà.
Et je rajoute, alors la boutade de Tariq Mami, c'est que dans cinq siècles, c'est-à-dire très loin de nous, des Tunisiens diront: nous avons un président qui est enterré ou qui a été enterré à la Mecque.
A été enterré, parce qu'il faut savoir, c'est, voilà, comme vous le savez, largement,
ouais, si un jour on
c'est qu'on n'a pas de cimetière.
Non, mais qui l'a été. Alors que Ranouchi, qui toute sa vie courait derrière
c'est pour ça.
La gloire de l'islam, personne ne se rappellera de son nom dans cinq siècles.
Pour moi, c'est un exemple extraordinaire, heureusement ou malheureusement, selon les uns et les autres, justement, des choses, de tout le mal qu'il a pu faire. Ouais. Dans la balance globalement, et au final, il est enterré là où des millions, pour pas dire des milliards de gens rêvent d'être enterrés. Faut pas oublier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quand même enterré dans les lieux saints de l'islam, ce qui est pas, il n'y a pas de comparaison, mais ce que je veux dire, c'est quand même lourd. Et la deuxième chose, c'est qu'il est enterré un vendredi, selon certains hadiths, etc. Il est dit que lorsqu'on est enterré un vendredi, lorsqu'on est mis sous terre un vendredi,
et à la Mecque,
et qui plus est à la Mecque, le
pardon est total.
Voilà.
Non, c'est extraordinaire.
Oui, enfin là, je vous laisse la responsabilité de vos propos, parce que pour ce qui est du pardon, nous ne sommes pas juges. Hein.
Non, nous ne sommes pas, mais
il y a des hadiths.
Oui, d'accord, mais vous savez les hadiths qu'on en dit aussi.
On explique. Par exemple, quand quelqu'un.
Non, pas Christophe, attention.
Non, mais Christophe, quand quelqu'un va à la Mecque et qui meurt,
oui,
les parents ont une douleur terrible. Et en contrepartie, ils tempèrent tout de suite la douleur.
C'est un bonheur.
C'est un bonheur pour lui d'avoir mouru. Donc ça, c'est la tradition, c'est pas de la politique.
Oui, oui.
Et moi, je vous fiche mon pari qu'à partir de l'année prochaine, quelques pèlerins tunisiens, je dirais pas tout, Mais beaucoup ou quelques pèlerins iront systématiquement chercher quel serait ce cimetière dans lequel Ben Ali est enterré.
Sauf que
voir que quand ils arrivent là-bas, ils auraient une pensée pour lui. Et il lirait une fatiha dans la rotelle.
Je pense que les Saoudiens, par contre, la fatiha, il n'y a pas de souci dans la rotelle. Les Saoudiens sont tout sauf ça.
Oui. Oui,
les Saoudiens considèrent qu'une fois que vous êtes mort, contre tout symbole.
Il n'y a même pas de nom sur les temps.
Il n'y a rien. Même lorsque c'est le roi en personne qui décède, il est enterré, point barre.
En tout cas, beaucoup, je veux dire peut-être 10%, 15% des pèlerins auront une pensée à la Mecque, à Ben Ali. Et ça, c'est moi j'appelle ça
le clin d'œil. Pour moi, il est.
Moi j'appelle ça la ruche de l'histoire.
Et ça permet, ça doit nous permettre à chacun d'entre nous d'ailleurs de réfléchir avec tout, parce qu'il y a des gens quand même qui ont souffert, qui sont morts de son autoritarisme, pour pas dire dictateur.
Ouais.
Et au final quand même un mec, même un personnage aussi brutal que lui, Dieu lui permet d'eux.
Ouais.
Ça fait réfléchir en tout cas.
Bon, allez.
Alors, la question politique maintenant, cher Christophe. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le deuxième tour ou pas?
Non.
Voilà.
Après, on est d'accord.
Non. Oui. Alors, il y aura peut-être le parti de Haber Moussi qui va essayer de jouer sur ça. Mais dans l'absolu, les Tunisiens sont en train de tourner les pages d'une manière extraordinaire. Je vous rappelle que le 25 juillet, c'est le président Béji qui est décédé. Que le 15 septembre, jour du vote de la présidentielle, c'est Madame Béji qui est décédée. Et que donc, l'ancien président Ben Ali qui est décédé. Donc il y a une espèce de rythme de cette politique tunisienne qui accompagne la mort et qui va peut-être rappeler à ceux qui doutent de la mort, de la mort, de ses conséquences et tout ça, de dire il n'y a pas d'hasard dans ce pays que tout ça se passe maintenant.
On va passer, si vous le voulez bien, à un autre endroit de la Terre où il y a eu des élections cette semaine. Très intéressante. En Israël. Peu importe qui gagne, cette élection de ce nouveau gouvernement promet d'être de toute façon pas différente de l'ancienne. Est-ce qu'on peut dire que les guerres perdureront, que la violence perdurera, que la haine perdurera sans relâche? Et c'est un peu, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que, il y a quand même un perdant dans cette histoire, il s'appelle Netanyahou.
Alors commençons par la fin, si vous permettez, en attendant Farid. En fait, d'abord, je ne sais pas si vous avez vu passer une dépêche, cher Christophe, dans laquelle l'ancienne ministre des Affaires étrangères américain, qui s'appelle Rexon, dans une conférence qu'il fait devant des étudiants dans une grande université américaine, dit « Bibi a manipulé à plusieurs reprises Trump, et Trump s'est laissé enjouer par Bibi ». Et donc Bibi, en fait, après le créateur ou après le premier président d'Israël, a été le premier ministre qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Sauf que, ayant entré dans la corruption, il a utilisé le pouvoir pour Israël. Certes, oui, il a gagné plein de batailles en termes de diplomatie, notamment la reconnaissance par les Américains de Jérusalem, capitale unique d'Israël, la reconnaissance du Golan israélien. Il manque pas grand-chose pour qu'il termine la question palestinienne, mais il a utilisé ce pouvoir pour échapper à la justice le plus longtemps possible. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a eu en gros 31 sièges contre 33 pour la coalition en face, et donc il ne peut plus être Premier ministre. Tout au plus, il négocie, peut-être qu'il sera ministre d'un autre Premier ministre, ce que je pense qu'il n'acceptera pas. Et donc, la première bonne nouvelle pour la région, c'est la fin de la période de Netanyahou.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Tariq?
Non, mais la première bonne nouvelle pour la région, c'est sa disparition à lui, parce que lui, en fait, comme d'autres, il ne...
Disparition politique.
Oui, disparition politique, parce qu'il défendait sa carrière et sa personne en même temps qu'Israël, alors que le prochain va venir défendre Israël.
Ouais.
La deuxième chose, c'est que vous avez, depuis plusieurs années, ce qu'on appelle la liste des partis arabes, s'est remis en coalition et attrape 13 sièges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une participation importante des Israéliens, Arabes, Palestiniens, et 13 sièges, c'est important, puisqu'ils vont être le troisième parti du gouvernement. Alors, Netanyahou a fait toute la campagne pour dire qu'il ne faut pas leur donner des sièges parce que c'est des traîtres à Israël et de toutes les façons, ils ne seront jamais au gouvernement. Celui qui a gagné a une position beaucoup plus ambiguë. Ils disent que c'est des citoyens israéliens, ils ont gagné, on verra bien.
Ils le seront.
Voilà, on verra bien. Alors, par contre, il y a Lieberman, le fameux videur de boîte de nuit, comme aimait à dire mon ami Ibrahim Hasmaïl, al-Rahman. Lui a toujours été l'arbitre dans cette bataille, et lui, par vengeance contre Benjamin Netanyahou, ira avec Gantz, donc l'alliance dite bleu, blanc-bleu. Et donc, aujourd'hui, Netanyahou politiquement a perdu. Reste, quelle est la politique de demain du nouveau gouvernement? Alors, là, le nouveau gouvernement, pour moi et M. Gantz, ne sont pas des colombes et ne chercheront pas à faire la paix à tout prix, ni la politique de des États, mais ils ne seront peut-être pas aussi sanguinaires que M. Netanyahou, et qu'ils seront dans une phase d'attente et ils enverront quelques messages pour voir comment Mahmoud Abbas va réagir, comment le Hamas va réagir, comment ce parti qui va rentrer au gouvernement, parce que vous savez, Christophe, si les Palestiniens arabes rentrent dans le gouvernement, peut-être qu'on leur cachera quelques volets de la politique étrangère et de la sécurité militaire, mais pour le reste, ils seront au cœur du système.
C'est très intéressant en tout cas. Farid, tu partages l'analyse?
Alors, moi, j'ai envie de la partager, mais j'ai peur qu'on ne soit pas dans cette logique.
Oui.
Pourquoi ?
C'est pour ça que je dis, on prend les mêmes et on recommence, quoi.
Alors, Netanyahou, les gens le connaissent.
Oui, ça.
Les gens savent la manipulation, notamment lorsqu'il y a des frappes sur Gaza, etc., etc. Globalement, il n'y a pas de surprise. Moi, j'ai peur, c'est que le fait que ce ne soit pas Netanyahou comme Premier ministre, que qui que ce soit qui soit Premier ministre, va devoir démontrer sa puissance. Et là, c'est à mon avis beaucoup plus dangereux que d'avoir un Netanyahou. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la politique...
Tu as fait exprès de l'écorcher. Hein.
Non, j'ai pas fait...
Moi, je l'appelle Nathan, c'est comme Nathan.
Netanyahou.
Netanyahou, pardon.
Nathan.
Donc moi, enfin, j'espère me tromper, et je ne suis pas un spécialiste non plus de la question israélo-palestinienne.
Toi, tu crois que ça soit pire ?
Mais ça sera pire. Pour moi, ça sera pire, jusqu'au point où de nouvelles négociations secrètes aboutiront, ce qui était le cas avec Netanyahou. Les gens ont oublié ce qui était complètement le cas avec Netanyahou et MBS. Finalement, Trump a complètement fait voler en éclats un certain nombre de choses, parce que contrairement à ce que les gens pensent, les États-Unis sont beaucoup plus libres dans leur interprétation que ce que les gens imaginent, c'est-à-dire qu'ils sont à la solde potentielle d'Israël, etc. C'est jamais comme ça en réalité.
C'est plutôt le contraire. Hein.
C'est plutôt le contraire. Les États-Unis font ce qu'ils veulent.
Oui.
Et même en sur la politique israélo-palestinienne, il y a naturellement un lobby puissant.
Il y a plus qu'un lobby, cher Farid. Il y a quand même
le bobo
qui est là au quotidien. Et c'est lui qui négocie le contrat.
On est d'accord.
Et lui-même, il est orthodoxe. Vous savez, moi, j'ai découvert hier une vidéo où donc Jared, le gendre de Trump, a été autorisé par un, et là ça va vous étonner, par un rabbin marocain installé en Israël,
oui,
à utiliser sa voiture le samedi pour aller au serment de Trump. Donc, regardez la puissance de ce monsieur Jared et de son ultra, on dirait salafisme, pour reprendre le mot.
Oui, c'est pas mal. Pas mal trouvé, ça. Bien, je suis preneur.
Sauf que, cher Tarek.
Donc, le salafiste,
cher Tarek,
est dans le cœur du système et c'est lui qui
Tarek,
a son beau-frère.
Qu'Israël ait une influence non négligeable sur le président des États-Unis, c'est indéniable.
Oui.
Grâce au lobby, grâce à sa politique, etc. Qu'Israël ait une influence sur la politique américaine,
c'est non.
C'est autre chose.
Non.
Je dis pas qu'elle a pas d'influence. Attention. Je dis juste que les intérêts américains,
ils sont pas pris en considération.
Ne sont pas toujours pris en considération dans l'intérêt d'Israël.
Si.
Pas toujours.
C'est les intérêts d'Israël.
Pas toujours.
Il y a un bouquin qui est sorti l'année dernière, d'ailleurs, qui explique.
T'as le bouquin là-dessus.
Non, il y a un bouquin. Je vous le donnerai. Je cherche sur le texte, mais je l'ai lu. Et en clair, il dit aujourd'hui, nous avons l'impression que la politique extérieure américaine ne roule que dans les intérêts d'Israël, pour la simple raison que beaucoup des décideurs sont le fameux chrétien
évangéliste,
pour qui le retour du Christ est conditionné par la présence de tous les juifs.
Dans un certain sionisme.
Oui, oui. Voilà.
Donc, cette chose-là, elle est, pour moi, pour concernant la politique de l'État des États-Unis d'Amérique, elle est comme nature, elle est minime. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais c'est pour ça que je fais une distinction dans ce que Trump, dans la volonté de Trump et la volonté des États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que si Dieu nous prête vie, nous verrons à un moment donné ou à un autre un retournement de situation dans les stratégies et dans les alliances du Moyen-Orient, du proche et Moyen-Orient, et les gens seraient étonnés. C'est beaucoup plus, à mon avis, complexe que cela.
Oui, bien sûr.
Ce qui est certain, c'est que là, on rentre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netanyahou a perdu son pari. Parce qu'en vérité, il a déclenché quand même ses législatives partielles. Il les a, qu'on le veuille ou non, pour moi, il les a perdus.
Oui,
c'est-à-dire, il les a perdus. Ça va peut-être un peu brusquer un peu la société israélienne. Pour revenir sur les Israéliens arabes et notamment le fait qu'ils aient gagné un certain nombre de postes.
13, ils sont 3e.
Voilà. Ouais. C'est pas nouveau.
Ça, c'est intéressant aussi, Farid.
Sauf qu'ils
l'augmentation,
ont
l'augmentation quand même.
C'est le regroupement des petits partis entre eux. Ça n'est pas nouveau.
Ça, c'est intelligent.
Ça n'est pas nouveau sur le fait qu'ils risquent de participer au gouvernement israélien.
Je cherche dans ma mémoire.
Alors, je c'était pas sous la droite, sous la gauche,
Mais il y en a un ou un truc comme ça, mais je cherche dans ma droite, je trouve pas.
Et encore une fois, là-dessus, il faut comprendre la société israélienne dans son ensemble, avec les Arabes israéliens, c'est beaucoup plus complexe que la caricature que malheureusement très souvent on essaye de faire.
Parce qu'ils sont à la fois Arabes, Palestiniens, majoritairement musulmans, mais avec quelques chrétiens et quelques, druzes, qui d'ailleurs les Druzes font l'armée israélienne, pas les musulmans, pas les chrétiens.
Complètement.
Voilà. Et ils sont en même temps israéliens et ils sont culturellement profondément israéliens.
Moi, j'ai bien sûr.
C'est des Israéliens dans leur tête. J'allais dire, je veux pas faire de mauvaise comparaison.
Ouais. En clair, non mais en clair, Tarek
mais
Farid.
Vous m'avez compris.
Tarek Mami, Farid Tamsamani, en clair.
Oui.
C'est critique ce qui se passe, c'est-à-dire pour la suite dans cette région.
Faisons plutôt wait and see.
Oui, voilà.
Espérons que la présence de ce parti arabe.
Parce que les flammes sont quand même pas tout à fait éteintes pour cette région avec l'Iran.
Elles n'ont jamais été éteintes.
Elles n'ont jamais été éteintes. Oui, absolument.
Le feu est plus fort ou plus faible, mais il y a jamais toujours eu.
Ce qui risque d'arriver beaucoup plus difficile. Alors c'est facile à dire de Paris, beaucoup plus difficile à supporter lorsque vous subissez les bombes, etc.
Bien sûr.
Mais je ne serais pas étonné qu'à l'avenir, les choses empirent encore davantage.
Moi, je reste
optimiste,
moyennement optimiste.
Ouais.
Parce que celui qui a gagné est un ancien, est un général, est un ancien chef d'état-major. Donc la guerre, il sait.
Contrairement. Ça, c'est l'avantage.
Non, voilà. Donc, contrairement à l'autre qui fait de la politique et qui envoie les soldats.
Ça, c'est
d'ailleurs,
l'avantage.
Il voulait faire une opération contre
Ça, c'est un avantage très important.
Il connaît aujourd'hui la faiblesse de la société israélienne en termes d'armement face à Hezbollah, à l'Iran. Et donc, il cherchera, sans le dire, à ce que les Israéliens ne soient pas frappés à l'intérieur du territoire en cas de grosse opération, que d'aller chercher l'Iran chez elle, contrairement à l'autre qui ne le faisait pas. Mais l'objectif premier de Netanyahou qui vient de perdre, c'était de pousser les Américains à aller bombarder l'Iran.
Ouais.
Celui-là ne cherchera pas à faire ça. Il cherchera à dire aux États-Unis, faites-leur tellement peur pour qu'ils restent là où ils sont et qu'on n'arrive pas jusqu'à la guerre.
Un petit mot, monsieur.
C'est un militaire quand même.
Oui. Alors on va suivre de très près ce qui se passe parce que c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, ils n'ont encore pas formé le gouvernement.
Ah ben.
Et c'est compliqué.
Ils ont trois mois pour former.
Oui.
D'abord, il y a.
Là, on entre dans une partie de tractation.
D'abord, il y a le président de la République qui traditionnellement appelle le chef du parti qui a eu le plus grand siège, c'est-à-dire Gantz, 33. Et à partir de là, il a 3 mois. Donc Gantz, il a 33.
L'autre, la politique a horreur du siège vide.
Oui, non, mais il va être
prêt. Non, ça dépend. Je suis pas d'accord, Christophe. Il y a des pays qui se comportent très bien sans gouvernement. Mais là, ils sont de nouveau sans gouvernement.
Et l'Espagne, c'est une catastrophe en Espagne.
Là, ils ont un gouvernement, mais pas tout.
Non, mais ils vont remonter encore les législatives pour la cinquième fois, je crois.
Christophe, aujourd'hui, nous avons un premier ministre qui s'appelle Netanyahou.
Oui.
Demain. Quand le président appelle Gantz, Netanyahou n'est plus Premier ministre. Et c'est Gantz qui prend le titre de Premier ministre et qui gère les affaires courantes en attendant de construire un gouvernement.
Un petit mot, monsieur, sur ce qui est à redouter par les renseignements français demain. C'est ce 45e samedi des Gilets jaunes en plein Paris. Puisque vous savez que chaque semaine, ils désignent une capitale pour rassembler tout le monde. Demain, c'est Paris. Il y a des appels notamment des Black Blocs à venir casser les bâtiments, parce que ça coordonne avec les journées du patrimoine qui auront lieu tout ce week-end et d'ailleurs qui obtiennent un immense succès. Quelques ministères seront fermés parce qu'ils se situent sur un parcours de manifestation et que ça pourrait évidemment occasionner quelques problèmes de sécurité. Par contre, l'Elysée reste ouvert. Alors, par contre, il paraît que ça se fait sur invitation. Hein, tout ça, il faut aller s'inscrire sur le site et compagnie. Est-ce qu'il faut le redouter? En un mot rapide, parce qu'on n'a pas le temps, ce 45e samedi des Gilets jaunes, Farid.
Bon, pour moi, les Gilets jaunes...
Ils sont encore là, quand même, hein.
Oui, enfin, le noyau dur, moins qu'il y a
ah bah
un an.
D'accord.
La réalité, c'est que là, ils essayent de pousser parce qu'ils veulent célébrer les un an du mouvement, ce qui peut se comprendre.
Ça a commencé là,
ça date là. En novembre. Ça avait commencé en novembre. Ça va être du symbolique. Pour moi, les Gilets jaunes ont loupé le coche, politiquement, en tout cas parlant, à une époque. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ne savent même pas qu'il y a encore un mouvement des Gilets jaunes. La vérité, c'est celle-ci. Ça n'empêche pas que, en fait, les vrais sujets qu'ils avaient soulevés sont toujours d'actualité, notamment avec la hausse du pétrole.
Tarek, on est d'accord ou pas? Oui? Non? Rapide?
Alors, quand vous avez une belle chaussure, cher Christophe, que vous avez un caillou dans cette chaussure, votre chaussure a toujours été très belle. Vous pouvez faire semblant de marcher, mais vous avez toujours le caillou. Et le gilet jaune, pour moi, reste à ce jour le caillou dans la chaussure de M. Macron. Donc, en tunisien, on dit que...
On dit que c'est l'ordre de la pub, en tunisien.
Non, je vous le dis, moi. On dit que c'est la mouche en merde, excusez-moi l'expression, mais fait pas mal.
Bon, donc, dans un instant, mes questions ne feront aussi pas mal. À tout de suite. Le Grand Forum, messieurs, dames, Farid Tabsamani, Tarek Mami, qui sont là depuis tout à l'heure, ils ont parlé de politique, on a décortiqué, on a parlé de Tunis, d'Israël, un tout petit peu des Gilets jaunes. Maintenant, j'ai des petites questions à vous poser, moi.
Est-ce que je peux redire un mot sur la Tunisie et Ben Ali? Moi, ce que je souhaite, c'est que maintenant Ben Ali étant mort, que les vrais historiens commencent à faire le travail de recherche, comme dit l'autre, pour savoir, comme disait le Parti communiste de l'Union soviétique, est-ce que le bilan est globalement positif? Ou est-ce que le bilan est globalement négatif pour que les Tunisiens en terminent avec ce régime autoritaire, avec une vision plus ou moins universitaire de recherche, et qu'on ne reste pas l'obsession de ceux qui ont souffert, qui ont été torturés et tués, et le bonheur, entre guillemets, de ceux qui vivaient bien, parce que l'histoire des peuples avance contre la vérité, entre guillemets, vérité, quand les vérités sont dites. C'est depuis 2011 que les livres commencent à sortir sur Bourguiba et qu'on commence tous à découvrir le Bourguiba, le bon, le gentil et le méchant.
Très bien, on est preneur. Farid aussi, je crois.
Tout à fait.
Quelques questions à vous poser, messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre.
Ah, voilà, vous allez nous faire le quiz?
Ah, bah oui.
On va appeler Abdissalam.
Non, il écoute, vous inquiétez pas.
Il joue ou pas?
Non, il joue pas.
Par contre, il nous écoute.
Il joue derrière le rideau.
D'accord.
Je rappelle la règle, elle est très précise. Il faut bien attendre la fin de ma question avant de répondre.
Voilà, entre deux personnes de bonne compagnie, normalement.
Oui. On va se laisser chacun.
Faites pas les malins, ne faites pas gagner du temps.
Voilà, on va se laisser le temps pour répondre.
Qu'est-ce qui a été institué en 1792 en France, messieurs, vous qui avez une mémoire incroyable.
1792.
Oui.
Institué.
Je vous laisse. Moi j'ai une idée, mais je vous laisse.
Bah, allez, dites-le.
Non, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de course.
Non, allez-y.
C'est politique. Oui. C'est politique.
Je sais pas.
Non, pour moi c'est le calendrier.
Non. C'est le divorce.
Donc c'est pas politique.
C'est pas politique. Moi j'ai rien dit. Hein. Moi je vous laisse les faire.
Non, mais je pensais que
c'était 1792.
Oui, parce que 1792. Moi je pensais que le divorce a été institué en France.
Je pensais que c'était le calendrier où on est passé à Brumaire.
Non, je pensais que c'était quelque chose de très politique, mais en fait pas du tout.
Deuxième question très facile, là, hein, les gars. Ouverture en 1946 d'un premier festival. Lequel?
Cannes.
Oui, monsieur Mami. C'est le festival de Cannes effectivement qui a fait.
Moi j'ai toujours pensé que Cannes était plutôt à Alger.
Comment ça, Alger?
Attendez, que le festival de cinéma en France a été créé à Alger, comme Orangina, j'allais dire, et que pour des raisons X, il a été déplacé à Cannes. Et j'ai toujours eu un doute sur ce point-là. Est-ce qu'il a été créé directement à Cannes ou est-ce qu'il a été créé en Algérie pour être amené à Cannes? J'ai un doute.
Troisième question. Quel pilote de Formule 1 devient recordman de victoires en 1987 avec pas moins de 28 victoires.
Avant de mourir dans un accident?
87? Non, il est pas mort.
Hein. Ah, c'est pas. Ah,
c'est Prost.
Alors, c'est le Prost.
Oui, c'est Prost. Monsieur,
moi,
Madame Samani.
Ouais, non, mais moi je pensais
87,
à.
Oui.
Ah, 87. Ouais, non, c'est pas Sénat. Français, j'ai dit.
Oui, oui.
Formule 1 français.
Ah oui, j'ai pas
entendu
français, oui.
Un partout. On enchaîne avec une quatrième question. Qu'est-ce qui a été approuvé par référendum en 1992 en France?
Maastricht.
Oui, Maastricht, effectivement.
La fin de la France.
C'est le petit commentaire. Cinquième,
à la demande d'Atali.
Cinquième et dernière question.
Des Américains surtout.
Je cherche à présent un journaliste, mais aussi écrivain français né en 1946. Il a longtemps officié sur une grande chaîne de télévision française. À la messe, notamment. Enfin, à la messe, quand je...
Ah,
voilà! Patrick Parot d'Arvor, exactement!
Oui, quelle messe?
Messieurs. Bah, la messe du 20h, t'as
raison. Ah oui! La protestation officielle.
Comment ça? Il n'y a pas de protestation.
Il n'a pas terminé.
Voilà.
C'est vrai.
Voilà.
Non, il a raison.
Voilà. Vous avez dit, vous écoutez jusqu'à la fin.
C'est vrai.
Eh ben, je lui enlève le point, mais ça lui fait quand même la victoire de 1. Voilà.
Il n'y a pas de problème.
Victoire de Tam Samani. Mais Tarek Mami, attendez. Tarek Mami revient de vacances. Laissez-le s'échauffer. Vous allez voir, tranquillement.
Moi, j'aime bien, si vous voulez, j'allais dire l'esprit des quiz, mais c'est pas un concours qui est le plus rapide, c'est pas, on va faire, pas faire le buzz.
C'est surtout les questions qui sont intéressantes.
Voilà, les questions qui sont intéressantes.
Ça permet aux auditeurs également de.
Et nous, de rafraîchir la mémoire, parce que
voilà.
Le divorce.
Bah oui,
en
le divorce.
92,
ouais. Bah oui,
pour
messieurs.
Moi, c'était plutôt le calendrier.
Et ben non.
Et donc, voilà.
Voilà. Et ben, merci en tout cas, messieurs, pour cette belle première émission Tarek Mami. Et rendez-vous la semaine prochaine. Monsieur Farid Tam Samani également.
Merci à vous.
Merci à vous. Excellente soirée dans un instant. Medjed sur France Maghreb 2. Il est là. Oui. Juste après les infos de 18h sur France Maghreb 2. Excellent week-end. On se retrouve lundi à partir de 16h pour une nouvelle semaine de décryptage de l'actualité. L'info autrement. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est sur France Maghreb 2 du lundi au vendredi. Le rappel de l'actualité. Bonsoir.
Bonjour, 5 syndicats de la RATP appellent à une grève illimitée à partir du 5 décembre. Un mouvement de protestation contre la réforme des retraites. L'UNSA, la CGC, Sud Solidaire et Force Ouvrière demandent au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le maintien des garanties statutaires. De son côté, la CGT indique que la décision de participer ou non à la grève n'a pas encore été prise. 7500 policiers et gendarmes déployés demain à Paris pour la journée de mobilisation des Gilets jaunes. Un dispositif sécuritaire identique à celui du 1er mai. Le préfet de police de Paris explique avoir quelques inquiétudes sur la présence d'éléments violents. Le périmètre des Champs-Élysées sera interdit aux manifestants. Tous souquent pour ça, réaction de Jean-Luc Mélenchon après les réquisitions contre lui dans le procès de Bobigny. 3 mois avec sursis et 8000 euros d'amende. Les avocats de la défense vont maintenant plaider la relaxe pour les 6 prévenus. Le jugement sera mis en délibéré. L'Allemagne annonce la mobilisation de 100 milliards d'euros pour le climat d'ici à 2030. Annonce faite le jour de la mobilisation des lycéens pour le climat. Ils étaient des dizaines de milliers à Berlin devant la porte de Brandebourg. En France, des rassemblements sont en cours, notamment à Paris, Bordeaux, Rennes, Lyon, Nantes et Toulouse. Le Japon remporte le premier match de la Coupe du Monde de rugby. Le pays organisateur a battu la Russie à Tokyo 30 à 10. Les Japonais ont passé 4 essais et obtenu un point de bonus offensif. Les Français joueront leur premier match face à l'Argentine demain matin. Enfin, le programme de la 28e Fiesta des Suds, le festival marseillais, accueillera notamment Arnaud, Catherine Ringer, mais aussi la chanteuse londonienne Alani. Certains concerts seront donnés en plein air sur l'esplanade du Mucem. Le festival aura lieu du 10 au 12 octobre. Bonne journée à tous.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.